Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 11 janvier 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations au Mali, le gouvernement appelle à manifester vendredi contre les sanctions ouest-africaines. Les autorités de Bamako se disent toutefois ouvertes au dialogue. Drame en Éthiopie, une frappe de drone au Tigré a tué 17 civils, selon des sources humanitaires. Ici aux États-Unis, Joe Biden se rend en Géorgie pour promouvoir une vaste réforme électorale. Les États-Unis offrent 308 millions de dollars à l'Afghanistan après l'appel de l'ONU pour une assistance de 5 milliards de dollars afin d'éviter la catastrophe dans le pays. Cannes 2021 au Cameroun, l'Algérie tenante du titre et grand favori à sa propre succession est entrée en lice aujourd'hui. Emmanuel Julintap nous donnera les détails tout de suite en ouverture dans le journal des sports. La première grosse sensation de la Coupe d'Afrique des Nations de football a été enregistrée dans la poule E cet après-midi au stade de Japoma à Douala. Lors de la première journée, l'Algérie a été tenue en échec par la Sierra Leone. Le journal de la CAN, retrouvons Emmanuel Julintap à Yaoundé. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir, bonsoir à tous. L'Algérie, champion d'Afrique, a été contrainte au partage de points par la Sierra Leone lors du premier match de Coupe E. Le résumé de la rencontre avec Amédine Sy.
C'est la première sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations car l'Algérie a été tenue en échec par une valeureuse formation Sierra Leonaise. Jamais les Fennecs n'auront réussi à trouver le chemin défilé. Riyad Mahrez et ses partenaires ont buté sur des Sierra Leonais courageux et un Mohamed Camara intraitable dans les buts. Les Fennecs n'ont pas trouvé la solution face à la Sierra Leone. Pourtant, 108e nation au classement FIFA. D'ailleurs, ils retrouvent la CAN après 26 années d'absence car leur dernière participation remonte à 1996, c'était en Afrique du Sud. Certes, l'Algérie partait avec la faveur des pronostics, mais les Fennecs ont eu en face d'eux une équipe sierra-leonaise très difficile à manœuvrer, une équipe solidaire, une équipe vaillante avec un excellent gardien de but. Les Algériens ont d'abord connu une première période délicate, manquant de précision et subissant quelques frayeurs face à des joueurs de la Sierra Leone qui ont joué crânement leur chance. La seconde période leur est plus favorable, mais le jeune gardien de but, Mohamed Camara, a réalisé plusieurs arrêts déterminants face aux attaquants de l'équipe championne d'Afrique en titre. D'ailleurs, le gardien de l'équipe de la Sierra Leone est le héros de ce match. Les hommes de Jamel Belmadi seront attendus au tournoi dès dimanche pour leur seconde rencontre. Ce sera face à la Guinée équatoriale. Le dernier match du groupe opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale ce mercredi. Amédine Sy, envoyé spécial de la VOA Afrique depuis le Cameroun.
À la veille du match contre la Guinée équatoriale, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, l'autre grosse pointure de la poule E, était face à la presse ce matin. Patrice Baumel s'est montré prudent au sujet de l'adversaire des Ivoiriens. Quand on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, il faut aller chercher les 3 points à chaque match. Dans cette nouvelle forme de la compétition, le meilleur troisième se qualifie pour le deuxième tour. J'ai joué à plusieurs reprises la Guinée équatoriale et cela a toujours été des matchs serrés, a-t-il déclaré. La Guinée équatoriale sera à sa troisième confrontation avec la Côte d'Ivoire. L'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. Nous n'avons pas peur de la Côte d'Ivoire, a souligné Castor Nopo, l'entraîneur de la Guinée équatoriale, au cours de la conférence de presse d'avant-match. À des milliers de kilomètres de Douala, la poule D vibre au rythme d'une grande affiche entre le Nigeria et l'Égypte dans le stade de Rumdeadja à Garoua. Le Soudan et la Guinée-Bissau, quant à eux, seront en opposition sur les mêmes installations dès 19h, temps universel. La première journée de la CAN se referme ce mercredi avec les matchs du groupe F basés à Limbé et Boya. Deux rencontres sont au programme. Tunisiens et Maliens ouvrent le bal et très attendu, le duel des outsiders entre la Gambie et la Mauritanie. La Gambie ne cache pas ses ambitions. Tom Saintfield.
Tout le peuple sont fiers parce que pour 50 ans, ils n'ont jamais joué un tournoi. Ils sont toujours un peu supporters de notre grand frère Sénégal. Mais maintenant, nous sommes là et on a beaucoup de confiance de notre équipe. On a prouvé les dernières 3 années qu'on peut être compétitif. On a joué 2 matchs nuls dans la qualification avant contre l'Algérie. On a gagné au Maroc, match amical contre les premières équipes du Maroc. gagné contre Togo, Gabon, Guinée-Conakry, Congo-Brazzaville, Angola. Ça, on n'a pas peur. Mais aussi, la situation de Covid peut décider beaucoup. Quels joueurs sont disponibles, quels joueurs sont négatifs, quels joueurs sont positifs. Je pense que les grands pays ont plus de joueurs de même niveau. Quand il y a un joueur absent, il peut remplacer plus facile. Pour nous, c'est peut-être plus difficile. On a un groupe fort, mais naturellement, quand il y a un des meilleurs joueurs pas disponible, ça peut être un problème. Mais pour le moment, on a fait le test hier. Tous les joueurs ici sont négatifs. Ça dit que il manque toujours deux joueurs. Babouka Gueye, mon premier gardien, il est toujours au Qatar parce qu'il est toujours testé positif là-bas. Et Youssef Abob, il est retourné du Qatar hier, mais il n'a pas entraîné pour plus d'un mois, une semaine, donc il ne peut pas jouer. Mais je pense que l'atmosphère est fantastique. Chaque joueur veut jouer le premier match de l'histoire du football gambien au CAN. Et on va voir, on va faire tout.
Le journal de la CAN prend fin. Amédine Sy, Emmanuel Zuntap, Yaoundé et Okafou.
À présent, la suite du journal. Au Mali, la junte au pouvoir à Bamako appelle les Maliens à manifester vendredi contre les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, tout en se disant ouverte au dialogue. Le point avec Nani Talani.
L'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusive pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie, a déclaré dans un discours à la nation le colonel Assimi Goïta, qui dirige la transition. Le gouvernement appelle à la mobilisation générale sur tout le territoire vendredi. Le colonel Goïta qualifie d'illégitime, illégale et inhumaine les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il a appelé au calme et à la résilience. Le gouvernement et lui-même assurent que des dispositions ont été ou seront prises pour parer au risque avec un plan de riposte. Cependant, Bamako dit rester ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus. La France et l'Union européenne affirment soutenir les sanctions prises dimanche par les dirigeants ouest-africains. L'ambassadeur russe adjoint à l'ONU, Dimitri Polorski, dit comprendre les difficultés des autorités maliennes.
Nous reviendrons sur le Mali dans la partie magazine avec la Guinée qui dit niet aux sanctions sous-régionales. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués mardi dans une attaque attribuée à des groupes djihadistes contre une unité du détachement militaire de Markoy, dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger. Le bilan pourrait toutefois être plus lourd du côté des militaires, une opération de ratissage étant en cours pour traquer les assaillants et rechercher des éléments toujours portés disparus, selon des sources sécuritaires. La semaine dernière, au moins 13 civils, dont 2 supplétifs de l'armée, ont été tués par des djihadistes présumés lors de 2 attaques dans le nord du Burkina. 17 civils ont été tués lundi dans une frappe aérienne menée par des drones sur la localité éthiopienne de Maïtsebri, dans la région septentrionale du Tigré. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
La frappe à Maïtsebri s'est déroulée hier lundi dans l'après-midi et a tué 17 personnes travaillant dans une minoterie, a déclaré une des sources humanitaires qui cite des témoins. Des dizaines de personnes ont également été blessées. Un témoin m'a dit que les drones sont arrivés et ont fait du vol stationnaire un petit moment avant de lâcher leurs bombes, a déclaré ce travailleur humanitaire. Dans la nuit de vendredi à minuit, une autre frappe de drone a touché un camp de déplacés de la ville de Dedebi, faisant des dizaines de victimes civiles, dont des morts, selon l'ONU, et poussant les organisations humanitaires à suspendre leurs opérations dans la zone. Dedebi et Maïtsebri sont situés dans le nord-ouest du Tigré. La région est le théâtre depuis 14 mois d'un conflit armé entre gouvernement fédéral et les anciennes autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré.
Un tribunal ougandais a poursuivi aujourd'hui un écrivain et critique du gouvernement pour avoir perturbé le président Yoweri Museveni et son puissant fils qu'il a moqué sur les réseaux sociaux. Kakwenza Rukirabacheja, 33 ans, est accusé de propos offensants envers les deux hommes et restera en prison jusqu'au 21 janvier, a déclaré Charles Twain, le porte-parole du bureau d'enquête criminelle de la police. Monsieur Rukirabacheja, qui a remporté l'année dernière un prix international dédié aux auteurs persécutés, a été arrêté le 28 décembre à son domicile de Kampala, après avoir notamment critiqué sur les réseaux sociaux le fils du président Muzi Kenerugaba. En Afrique du Sud, l'homme soupçonné d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement début janvier au Cap, a été accusé mardi de terrorisme et devrait subir une évaluation psychiatrique approfondie après un premier diagnostic de schizophrénie. Zandile Christmas Mafé, 49 ans, est coupable d'avoir enfreint une loi de protection de la démocratie constitutionnelle contre le terrorisme selon l'acte d'accusation. Le porte-parole du parquet, Eric Ntapazilalila, a précisé à la presse que l'accusé a fait exploser un engin dans le Parlement sans préciser de quelle nature. Quatre importants sites pétroliers libyens ont repris leurs activités dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été fermés de force pendant trois semaines par des hommes affiliés aux gardes des installations pétrolières. La fermeture de ces champs entraîne des pertes de plus de 300 000 barils par jour, soit le tiers de la production nationale quotidienne, avait déploré la Compagnie nationale de pétrole, forcée de déclarer l'état de force majeure.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont promis une première enveloppe d'aide à l'Afghanistan de plus de 300 millions de dollars cette année. C'est après un appel lancé par l'ONU pour aider le pays plongé dans une grave crise humanitaire. Le point avec Rosine Munezero.
Cet argent doit en priorité aider à l'alimentation, la santé ainsi que la protection des rigueurs de l'hiver, a souligné l'Agence américaine d'aide internationale, USAID, dans un communiqué. L'ONU avait demandé 5 milliards de dollars, un montant record, pour tenter d'empêcher l'Afghanistan de sombrer dans l'une des plus graves crises humanitaires de son histoire. Ce plan d'aide est une solution d'urgence, mais sans ce plan, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afghanistan, a déclaré Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires. Il a souligné que les fonds qui représentent un quart du PIB de l'Afghanistan vont passer directement par quelques 160 ONG et agences onusiennes sur le terrain. Ces agences d'aide feront la distribution grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire.
Ici aux États-Unis, Joe Biden va annoncer aujourd'hui son soutien à une manœuvre parlementaire risquée qui permettrait de faire passer au Sénat une vaste réforme du droit de vote malgré la farouche opposition des républicains. Les détails avec Eric Manirakiza.
Joe Biden a choisi la Géorgie, État du Sud emblématique de la lutte pour les droits civiques, afin de défendre une vaste réforme des droits de vote. Je ne céderai pas, je ne tremblerai pas, je défendrai votre droit de voter et notre démocratie contre les ennemis intérieurs et extérieurs, va lancer le président Biden à son auditoire, selon un extrait de son discours communiqué à l'avance. Les démocrates accusent les républicains de modifier à leur avantage les règles électorales dans certains États qu'ils contrôlent. Pour les contrer, Joe Biden veut que le Congrès pose un cadre législatif fédéral de manière à protéger l'accès des minorités et en particulier des Africains américains aux urnes. Il est désormais favorable à ce que les démocrates, qui comptent aujourd'hui 50 sièges au Sénat contre 50 pour les républicains, votent à la majorité simple en comptant sur le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Même en soutenant ce passage en force au Sénat, Joe Biden est encore loin d'avoir gagné la partie. Il lui faut rallier tous les sénateurs démocrates sans exception. Or, Joe Manchin, qui a déjà bloqué un immense projet de réforme sociale du président, est réticent à le suivre sur les droits de vote.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le CNRD dit niet aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir à Conakry a déclaré que les frontières guinéennes restent ouvertes à tous les pays frères. Voici les réactions à Conakry au micro de notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
La Guinée se désolidarise de la CEDEAO et refuse les sanctions contre le Mali. La junte au pouvoir déclare que les frontières de la Guinée restent ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Colonel Aminata Diallo, porte-parole des militaires au pouvoir en Guinée.
Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En date du 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste.
Ce soutien de la junte guinéenne est bien accueilli dans la communauté malienne vivant à Conakry. Mohamed Sidi Bé, président du Haut Conseil des Maliens de Guinée.
Ils l'ont rappelé dans leur communiqué. Le Mali et la Guinée sont deux pays frères, unis par l'histoire, la culture, la géographie, une réelle parenté. Et c'est en tenant compte de cette réalité que le gouvernement a effectivement apporté son soutien qui est largement accueilli par l'ensemble des Maliens.
Cette sortie de la junte est diversement appréciée par la classe politique guinéenne. Pour certains comme Faya Milemono, présidente du Bloc libéral, les militaires ont agi au nom de l'amitié entre les deux pays.
Notre politique bilatérale avec le Mali ne devait pas déterminer l'attitude que les chefs d'État de la sous-région ont. C'est-à-dire que les devoirs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de la Guinée n'ont rien à voir avec la politique que nous développons, nous, vis-à-vis, par exemple, un autre État membre.
La CEDEAO réclame des élections dans un délai court en Guinée. Ces sanctions contre le Mali devraient changer les choses en Guinée, selon Mamadou Babadiko, président de l'UFD.
La CEDEAO, en agissant ainsi, il faut dire qu'elle restaure au moins partiellement sa propre crédibilité. C'est effectivement un avertissement à la junte guinéenne. Ça ne leur donne absolument pas le droit de confisquer le pouvoir et d'en faire à leur tête.
Les militaires qui ont renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021 ont promis de rendre le pouvoir aux civils, mais sans donner de chronogramme de la transition. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, escalade entre Bamako et la CEDEAO. Réunie en sommet dimanche, l'organisation régionale a imposé des sanctions supplémentaires très sévères au Mali après la publication d'un chronogramme qui pourrait permettre à la junte de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2026. Le gouvernement malien a réagi en fermant ses frontières à la CEDEAO et en dénonçant des mesures illégales et illégitimes. Quelles peuvent être les conséquences de cette montée de la tension entre le Mali et la CEDEAO? Comment parvenir à une désescalade? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Vous l'avez entendu, la junte guinéenne dit ne pas se sentir concernée par la fermeture des frontières avec le Mali, tandis qu'au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sonko, dénonce les mesures prises lors du sommet d'Accra par les chefs d'État de la région. Sur les conséquences politiques et économiques de ces sanctions, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'économiste Ndongo Sambasila.
Ils ont une sorte de boomerang politique, parce que ça va créer un problème de manque de confiance entre les pays, en tout cas le Mali, la Guinée, vis-à-vis des autres pays de la CEDEAO. Et aussi un effet boomerang sur le plan économique. Le Mali est un pays enclavé qui est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et donc, la décision de la CEDEAO d'abord a été de dire que les actifs du gouvernement auprès de la Banque centrale et auprès des banques commerciales et des autres banques de la région seraient gelés. Donc, un gouvernement qui n'a plus la capacité de payer, c'est un gouvernement dont l'indépendance financière est très restreinte. Et donc, sa capacité à honorer ses dépenses va être très affectée. Donc, quand par-dessus tout ça, on dit qu'on ferme les frontières vis-à-vis de ce pays, frontières terrestres, aériennes, etc., donc ça pose problème pour un pays enclavé.
Parlons de cet effet boomerang, on a vu qu'au Sénégal, des voix se sont élevées pour dénoncer ces sanctions. Quel peut être le manque à gagner pour le Sénégal?
Tout dépendra de la durée, des sanctions. Parce que en fait, les officiels au niveau de la CEDEAO se disent que avec de telles sanctions, le gouvernement actuel malien ne pourra pas tenir très longtemps. Et donc c'est ça l'hypothèse de base. Le Sénégal, en fait, exporte, c'est le Mali son premier partenaire à l'exportation. Et donc à peu près c'est 20%, 20-21% des exportations sénégalaises. Donc le Mali, à lui tout seul, pèse beaucoup plus que toute l'Union européenne.
Et sur le plan politique, pour ces dirigeants de la CEDEAO qui ont pris cette décision, est-ce que ça peut causer des tensions internes quand on voit un peu les réactions dans les pays?
Bon, pour l'instant, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu de réaction du Nigeria. Et je pense que c'est la réaction qui serait la plus importante, parce que le Nigeria est le pays le plus important sur le continent, je veux dire économiquement et sur le plan démographique. Et on a l'impression que c'est juste une affaire de l'UEMOA, c'est-à-dire des pays francophones qui utilisent le français en Afrique de l'Ouest. Et ces dirigeants de ces pays ne sont pas plus légitimes que d'autres. Alassane Ouattara a eu un troisième mandat qui n'est pas constitutionnel, parce qu'il a fallu qu'il manipule un peu la constitution ivoirienne. Vous avez au Togo un dirigeant aussi qui est là depuis 2005. Et donc, si c'est ces dirigeants-là qui doivent sanctionner des peuples, ça pose problème. C'est-à-dire un dirigeant qui doit partir, mais qui s'accroche pour faire un troisième mandat. Personne ne dit rien. Et quand il y a un coup d'État militaire, c'est la levée des boucliers. Je pense que toutes les formes de coup d'État doivent être condamnées, qu'il s'agisse de coup d'État civil ou coup d'État militaire.
C'était l'économiste sénégalais Ndongo Sambasila.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Les habitants de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, font face depuis quelques jours à un manque d'eau potable alarmant, alors que la ville est située sur les bords du lac Kivu. Cela fait près d'une semaine que l'eau ne coule plus au robinet, un grand désagrément pour les habitants. Le reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi à Goma.
À Goma, beaucoup de jeunes filles et garçons viennent remplir leurs bidons d'eau au lac Kivu. Amanda Nabachaho, une étudiante, n'est même pas allée au cours.
Je suis ici à la plage pour puiser de l'eau des lacs. Bon, je vais précipiter de l'école pour venir puiser de l'eau, voir si je vais faire au moins 4 à 5 tours. Parce que ça fait au moins 4 ou 5 jours comme ça qu'on n'a pas eu de l'eau au quartier.
Ces manques d'eau dans plusieurs quartiers de Goma exposent aussi les habitants à divers risques sécuritaires quand ils s'élèvent tôt pour aller chercher de l'eau. Claude Derougo, président du conseil communal des jeunes de Karisimbi.
L'eau ne coule plus sur le bord de fontaine et là les paisibles citoyens sont en train de souffrir. Quand ils se réveillent tôt le matin vers les lacs, parfois ils se retrouvent devant les bandits qui ravissent leur téléphone, qui commettent même le coup et blessures volontaires sur eux. Il y a même certaines de nos filles qui commencent même à être violées, faute seulement d'aller rechercher l'eau au lac.
Les acteurs de la société civile pointent un doigt accusateur, les responsables de la société chargée de la distribution de l'eau, car cela dure plus de 5 jours sans aucune communication de la régie des eaux. Son directeur provincial, David Angoyo, rassure que les travaux sont en cours afin que les canalisations endommagées soient réparées dans le meilleur délai.
Nous sommes en train de réparer les tuyaux qui s'est éclaté, les mêmes tuyaux là qui transfèrent l'eau au nord. C'est la grande dorsale là qui a connu l'éclatement. Hier, on a lancé. Ça a marché jusqu'à 3 heures. De nouveau, il y a eu la fuite. On est de nouveau toute la journée ici, pendant que je vous parle. Là, nous sommes en train de préparer notre pièce robuste à mettre là-bas pour espérer terminer cette nuit.
L'eau se raréfie alors que cette ville fait face à des contaminations au coronavirus. Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures barrières, comme le lavage des mains qui est presque impossible sans eau. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Joe Biden se rend aujourd'hui dans l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis. Emblématique des combats passés et présents pour les droits civiques. Il va promettre de légiférer sur les conditions dans lesquelles le droit de vote s'exerce depuis l'inscription sur les registres électoraux jusqu'au décompte des voix, en passant par le vote par correspondance ou la vérification d'identité des électeurs. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à New York l'historien Mohamed Mboj.
Un petit peu le discours séminal sur le droit de vote, c'est son mandat, donc... On s'attend à des points forts. Ensuite, de façon symbolique, la Géorgie, c'est l'état de Martin Luther King. C'est aussi l'état de John Lewis, donc celui qui a plus ou moins succédé à Martin Luther King sur le plan politique. Et donc, le projet de loi en question est appelé donc le projet de loi John Lewis. Alors, on a constaté une certaine érosion de ce qu'on peut appeler l'expression de la volonté populaire avec beaucoup de restrictions ou d'interprétations restrictives et beaucoup de découpages électoraux qui favorisent les républicains. Et donc, ce discours va viser aussi cela. Il va essayer de remettre sur les rails l'idée que les citoyens américains, là où ils sont et partout sur le territoire américain, doivent pouvoir s'exprimer de la même façon, plutôt que de dépendre de ce qu'on peut appeler les législatures locales, qui peuvent restreindre la portée de leurs voix. La deuxième chose, bien entendu, c'est d'utiliser donc, la publicité de ce discours, sa portée, et son interprétation par les médias, etc., pour faire pression sur les deux démocrates qui, à l'heure actuelle, disons, bloquent la montée de l'agenda démocratique du Parti démocrate au Sénat, Manchin et Sinema. Et donc, c'est un peu les mettre devant le devoir moral, plus ou moins, en les faisant comprendre qu'en fait, en ne votant pas pour la levée de la règle du filibuster, ils sont en train de s'allier à ceux qui ont été dans le passé les ennemis de Martin Luther King et de John Lowe.
C'est un pari politique important que fait Joe Biden.
Oui, parce que la règle du filibuster, c'est de permettre qu'une majorité se prononce après débat, systématiquement, sans entrer donc, dans beaucoup de méandres de procédures qui permettent souvent à l'opposition non seulement de noyer les poissons, ou même parfois d'interdire techniquement que ces projets de loi soient soumis au vote. Il y a ce côté moral et politique. Et bien entendu, aussi, il y a des élections sénatoriales locales en perspective. Les démocrates l'ont emporté à la grande surprise lors des élections sénatoriales passées. Et donc, il s'agit de consolider cet acquis démocratique et de faire en sorte que la Géorgie, qui a voté pour Biden, reste dans le giron démocrate pour les élections futures. Et donc, on fait une stratégie du Sud, une stratégie électorale pour les électeurs noirs du Sud. Et c'est ici ce message les sera destiné.
Mohamed Mboj, professeur d'histoire à Manhattanville College, joint à New York. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.